Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, édition spéciale aujourd'hui consacrée à la prise de Goma par les rebelles du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Les États-Unis ont demandé mardi au Conseil de sécurité des Nations Unies d'envisager des mesures non spécifiées pour arrêter l'offensive. L'Union africaine a exigé le retrait immédiat des miliciens du M23 des zones qu'ils occupent. Le président Félix Tshisekedi a prévu de s'adresser à la nation aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 29 janvier. Bonsoir, bienvenue. VOA Afrique, le groupe armé du M23 soutenu par les forces rwandaises contrôle ce mercredi la quasi-totalité de Goma, la grande ville de l'est de la République démocratique du Congo. Les combattants du M23 se sont emparés hier de l'aéroport international de la ville. Les combats ont cessé, le centre-ville est calme aujourd'hui et les habitants ont recommencé à circuler dans la capitale provinciale du Nord Kivu, coincée entre le lac Kivu et la frontière du Rwanda. Retrouvons à Goma notre correspondant Fiston Issemouami.
Alors, il est aussi important de préciser qu'aujourd'hui, après le troisième jour de cette semaine, il n'y a vraiment pas de désaffrontements dans la ville de Goma. Et là, comme c'est la radio et télévision nationale congolaise, et qui m'ont pris déjà bien 23, et sans compter le port public de Goma, où les populations pouvaient prendre le bateau pour se rendre dans la province voisine du sud Kivu à Bukavu. Il faut noter également que le porte-parole militaire bien 23 nous a certifié aujourd'hui que il a été à l'aéroport international de Goma l'après-midi du mardi. Donc, la situation en ville de Goma est sous contrôle. Toute la ville est sous contrôle du mouvement du 23 mars dit en 23. Et au-delà de ça, il faut spécifier également que les corps de tous les militaires qui ont été abattus dans les arrières des affrontements du lundi, de cette semaine, bien sûr, les corps vivent encore jusqu'à maintenant, les corps sont en même espace. Les services n'ont pas encore commencé, les services n'ont pas encore commencé à enlever tous les corps dans les différents quartiers de la ville. Les corps sont vraiment éparpillés dans la ville. La population craint que ces corps ne se décomposent, que la maladie n'attaque ces populations qui consomment aujourd'hui l'eau du lac Kivu par manque d'eau potable, puisque je rappelle déjà que il y a une semaine déjà maintenant que la ville est toujours dans le noir, pendant qu'il n'y a pas d'électricité. La ville est dans le noir, pour ce cas, il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de connexion Internet jusque maintenant. La ville est vraiment tout en étant sous contrôle du M23.
Fiston Issemouami, correspondant de VOA Afrique à Goma, qui faisait l'état des lieux après la prise de la capitale provinciale du Nord Kivu. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, qui ne s'est pas exprimé depuis le début de la crise, va briser donc le silence ce mercredi en s'adressant à la nation, indiqué la télévision nationale. Son gouvernement a dénoncé ces derniers temps, la déclaration de guerre du Rwanda et souligné vouloir éviter le carnage à Goma, alors que la pression internationale s'accroît pour mettre fin à la crise. Une nouvelle tentative diplomatique a échoué aujourd'hui même lorsque le président congolais a refusé d'assister à une réunion avec son homologue rwandais Paul Kagame. Pour les dernières nouvelles depuis Kinshasa, je vous propose de retrouver dans la capitale congolaise notre correspondant André Ndambi. Bonsoir André.
Alors bonsoir Jean-Roger Billon.
Quelles sont les dernières?
Alors, Jean-Roger, Kinshasa s'est réveillé dans une atmosphère lourde, marquée par la timidité dès le lendemain des manifestations. Hier, des centaines de manifestants ont investi le riz de la capitale pour exprimer leur mécontentement, donnant des liens des affrontements sporadiques avec les forces de l'ordre. Alors, la population congolaise attend impatiemment le discours du chef de l'État, Félix Tshisekedi, avec des espoirs, des réponses claires aux revendications exprimées dans la rivière.
Alors, le chef de l'État doit s'exprimer aujourd'hui, André Ndambi. À quel moment, à quelle heure va-t-il parler?
Alors, normalement, Roger, il n'y a pas l'heure précise, mais juste les sources proches de la présidence qui renseignent que le président va bel et bien s'exprimer ce soir, un jour après la prise de Goma. Mais on ne sait pas encore l'heure précise qui va prendre la parole.
Alors, les habitants de Kinshasa,
les Kinois,
comment on les appelle, comment se comportent-ils aujourd'hui après que la ville a été prise et qu'ils aient manifesté hier?
Comme je venais de le dire tout à l'heure, John, juste entre lundi et mardi, Kinshasa était trop timide avec des manifestations. Alors aujourd'hui, ce matin, la ville était calme, timide, il n'y a pas eu trop d'activités commerciales. Par exemple, le marché qui n'ont pas fonctionné, les bus de transport. Pourquoi? Parce que hier, vous savez, pendant la manifestation, il y a eu des vols, les gens ont pillé des supermarchés. C'est comme ça que les banques aujourd'hui, les transports et autres, ils n'ont pas vraiment bien fonctionné.
Merci à vous, André Ndambi. Je rappelle que vous êtes notre correspondant à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Ces affrontements à Goma ont aggravé la crise humanitaire dans cette région stratégique pour son sous-sol riche et secoué depuis des décennies par les violences de groupes armés en partie soutenus par les pays voisins de la RDC et exacerbé après le génocide rwandais de 1994. Selon l'ONU, plus d'un demi-million de personnes ont été déplacées depuis début janvier par les combats. Nous allons faire le point à Bukavu, une ville proche de Goma, avec Jérémy Kouima, qui réside donc dans cette ville de Bukavu. Bonsoir, Jérémy.
Bonsoir, cher Guy Roger.
Alors, il y a des réfugiés qui ont afflué dans votre ville, qui est voisine de Goma, qui a été prise par les rebelles du M23. Quelle est la situation en ce moment?
La situation, elle est catastrophique. Pour certains, il y en a qui sont de retour dans leur ménage, puisqu'ils étaient à la recherche de la survie en province du Nord-Kivu. Il y a d'autres par crainte des représailles ou de l'insécurité qui prévaut, le crépitement des balles à Goma, ont dû fuir, les uns pour la ville de Bukavu, d'autres pour la deuxième ville de la province du Sud Kivu, Uvira. Il y en a même qui sont en train de traverser jusqu'à Bujumbura, la capitale du Burundi, et d'autres prennent la direction de Kalemi, le chef-lieu de la province du Tanganyika. Mais dans la ville de Bukavu, il y a vraiment toute une présence massive des déplacés. On ne les appelle pas réfugiés puisqu'ils sont jusque-là dans leur pays. Il y a un afflux de militaires d'abord. Il y a des militaires qui ont réussi à échapper ou à quitter la ville de Goma bien avant sa prise. Il y a peut-être d'autres qui ont eu les moyens très pendant la nuit et qui ont également réussi à s'enfuir. La ville, elle est vraiment trop bruyante. D'une part, ceux qui cherchent où loger. D'autre part, ceux qui reviennent dans leurs familles respectives. Mais d'autre part, ceux qui n'ont même pas où se faire héberger et qui doivent dépendre de la générosité des personnes de bonne volonté. Mais d'autres également tiennent beaucoup sur les organisations humanitaires.
Alors, en termes d'organisations humanitaires, est-ce qu'il y en a qui ont déposé leur valise à Bukavu chez vous pour aider ces réfugiés en termes d'hôpitaux, de santé, de soins de santé, etc.?
Pour ce qui est des organisations humanitaires, il y a la Croix-Rouge internationale, le comité international de la Croix-Rouge CICR qui souvent intervient dans des circonstances pareilles, qui prend en charge certains cas de blessés. Il y a également Médecins sans frontières dans la ville de Bukavu, mais qui jusque-là ne font que des petites interventions, peut-être en attendant à ce que leurs bureaux régionaux ou internationaux puissent prendre des décisions ou affecter des moyens nécessaires pour cette organisation. Pour ce qui est des organisations locales et autres organisations internationales, jusque-là, ils sont à la recherche peut-être des moyens ou en train de soumissionner ou rédiger des projets à soumettre aux bailleurs. Mais jusque-là, vraiment, la ville de Bukavu, c'est dans la précarité puisque c'est une catastrophe, c'est un événement auquel la population ne s'était pas préparée et même les humanitaires ne s'y attendaient pas ou ne s'étaient pas préparés à ça. Mais je vous ai cité au moins Médecins sans frontières et le comité international de la Croix-Rouge. En attendant, peut-être on a vu des signaux comme si le programme alimentaire mondial pouvait également intervenir très prochainement. Mais jusqu'à présent, aucun signe vraiment digne de ces noms n'est encore exercé.
Merci à vous, Jérémy Kouima. Je rappelle que vous êtes un résident de Bukavu. Dites-nous ce que vous faites dans la vie.
Dans la vie, je travaille pour les comptes d'un média local, un média confessionnel de l'Église catholique.
Donc à la base, vous êtes journaliste. Merci pour votre contribution et portez-vous bien dans votre ville de Bukavu, non loin de Goma. L'offensive vers Goma est la dernière réplique en date du génocide des Tutsis par des Hutus au Rwanda en 1994. Le M23 étant un mouvement à dominante Tutsi affirmant défendre les Tutsis de l'Est de la République démocratique du Congo. Comment la crise de Goma est-elle perçue au Rwanda et les derniers développements à Kigali, la capitale rwandaise, où je vous propose de retrouver notre correspondant Jean Damascène Manishinwe. Bonsoir Jean Damascène.
Oui, bonsoir Jean-Roger.
Que se passe-t-il chez vous?
Oui, effectivement, le développement de la situation à Goma, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, a affecté d'une manière ou d'une autre la population rwandaise et surtout les habitants de la ville de Goma, qui est une carrière de la ville de Goma. Finalement, comme on dit, il y a eu des obus qui sont tombés sur le sol rwandais, des tirs qui sont venus de Goma, et pas fait de mort et de blessés, à une mort et 35 secondes. Le porte-parole de force rwandaise de défense. Et puis, il y a eu le but passé. La population a été obligée de se déplacer parce que craignait pour sa sécurité. Et puis, il y a eu des réfugiés congolais qui ont traversé la frontière. Ils n'étaient pas appelés nombreux. D'après le ministère en charge des réfugiés, on demanderait plus de 1100 congolais qui sont arrivés au Rwanda, qui sont rendus pour trouver refuge à Goma, à Rubazou, à l'île de Saint-Aïeur. Aujourd'hui, d'après les dernières informations du ministère en charge des réfugiés, plus de la moitié de ces réfugiés auraient regagné la ville de Goma. Sinon, à Rubazou, la ville de Saint-Aïeur de Goma, la ville d'Axme d'Albert, le marché est ouvert, les écoles sont fonctionnées. La vie est vraiment très normale. Et là, on voit ce qui a attiré l'attention de la population à Rwanda comme à Kigali, c'est le passage de plus de 200 mercenaires européens qui sont venus de Goma et qui sont entrés sur le sol rwandais à Chevenier à Kigali. Et ils devraient partir vers l'aéroport international de Kigali pour amener leur pays. Et ce sont les mercenaires qui travaillent avec les forces de PNV et qui sont même des instructeurs militaires. D'après ce qu'ils ont déclaré à la presse au sein de Chogi, et quand ils venaient d'entrer au Tirosol Grande en direction de l'aéroport international de Kigali.
Alors, Jean Damascène, il devait avoir aujourd'hui une réunion convoquée par le président William Ruto du Kenya entre le président rwandais et celui de son homologue de la RDC. Ce rendez-vous a été annulé parce que Kinshasa a décliné. Quel est le son de cloche du côté de Kigali?
Oui, Kigali, c'est le regret total parce que les pourparlers, les négociations efficaces pour résoudre ce problème de la crise congolaise qui perdure depuis des années. Des voix qui se sont fait entendre ici à Kigali, que ce soit les analystes divers, que ce soit les autorités rwandaises, et d'ailleurs le porte-parole agent du gouvernement du Rwanda l'avait déclaré hier, que l'unique voie efficace pour résoudre ce conflit, ce sont les négociations. Alors, si le président congolais a décliné l'invitation du président en exercice de la communauté des États d'Afrique de l'Est, on estime que ce n'est pas un signe encourageant pour retrouver la paix, même s'il y a une solution militaire qui peut être trouvée, mais on estime que la vraie solution, ce sont les négociations. Alors, si le président congolais a refusé cette invitation de son homologue Kenya, qui est président de la communauté des États d'Afrique de l'Est, on estime qu'on est vraiment loin de, d'une solution durable à ce conflit qui perdure malheureusement maintenant.
Jean Damascène Manishimwe, correspondant VOA Afrique à Kigali, à ce stade de cette édition spéciale consacrée à la crise à Goma, nous allons accueillir notre analyste maison, René Lec. Bonsoir René.
Bonsoir Jean-Roger.
Alors on va rebondir sur la question posée tantôt à notre correspondant à Kigali, à savoir cette réunion convoquée par le président William Ruto et qui n'aura pas lieu parce que Félix Tshisekedi a décliné la rencontre, a décliné d'y participer. Quelle est votre opinion là-dessus?
Ah, écoutez, pour ceux qui souhaitent qu'il n'y ait pas une escalade dans le conflit, c'est une très mauvaise nouvelle. Je crois que plus on s'installe dans une escalade militaire en particulier, comme c'est le cas, et de manière aussi agressive pour une ville aussi importante que Goma, je crois que c'est vraiment une bonne nouvelle. Vous savez, il est bon de mettre les choses en perspective. Hier, je lisais un article dans la presse américaine. Vous savez, Goma, c'est la taille quasiment de Chicago. Imaginez une ville comme Chicago aux États-Unis prise par des rebelles, appuyée selon les Nations Unies et d'autres ONG par des forces d'un autre pays, d'un pays voisin. Imaginez la crise existentielle que cela créerait dans un pays comme les États-Unis. Donc, c'est une affaire qui est particulièrement sérieuse. Malheureusement, tant que le Congo lui-même sera un État relativement faible, les États qui, eux, sont plus structurés, plus stables, plus organisés, comme le Rwanda, certainement en tireront avantage. En plus de ça, il faut tenir compte du fait que le Rwanda a des arguments assez forts, notamment de type existentiel, sur les questions identitaires.
René Lec, quels sont les principaux enjeux géopolitiques de l'Est de la RDC, notamment en lien avec les ressources naturelles?
Écoutez, les enjeux sont énormes. Vous savez, je regardais tout à l'heure un peu la carte, la dizaine, douzaine de pays qui entourent le Congo, qui est un scandale, un scandale d'un point de vue des ressources et de ses richesses du sol et du sous-sol. Vous savez, les acquis sont importants et le fait que le pays lui-même ne soit pas dans une gouvernance forte, ne soit pas un État fort, qui n'a pas d'institution forte, cela le rend vulnérable par rapport aux appétits de tous les voisins. Vous prenez un pays, parce que c'est ça la difficulté au Jean-Roger en RDC, c'est que les intérêts de plusieurs pays sont en jeu. On parlait tout à l'heure du Kenya, qui joue un rôle important de stabilisation. C'est par Mombasa, le port de Mombasa, que beaucoup de ressources congolaises passent historiquement. Même chose pour Dar es Salaam. Maintenant, ils essayent de se déployer un peu plus à partir de l'Angola et de la Zambie. Bien entendu, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda également sont impliqués plus ou moins directement dans ce conflit. Donc tout cela parce que, comme vous le disiez, les ressources minières telles que le coltan, l'or, la cassitérite qui est utilisée pour les soudures électroniques, la wolfranite qui elle également est un minerai qui est utilisé pour les blindages en haute, dans l'aluminium, etc. Sont très très présents et les mines sont nombreuses à l'est du pays et sont particulièrement riches. Donc tout cela crée des intérêts économiques et financiers extrêmement importants. Alors dernier point sur cette question Jean-Roger, il y a également que ce qui attise aussi ce conflit, c'est que le Rwanda indirectement, en tout cas c'est ce que certaines accusations, ce dont fait état certaines accusations, chercherait à contrôler les routes d'approvisionnement justement vers le Rwanda, qui du coup se retrouve comme grand exportateur de coltan et d'or au-delà de ses propres capacités internes.
Alors Goma est donc pris par les rebelles du M23, soutenu par le Rwanda. Comment évaluez-vous la réponse des forces armées congolaises face à l'avancée des rebelles?
Alors, écoutez, ça va être la grande question. Est-ce qu'ils en ont les moyens? Vous vous souvenez que quand cela est arrivé il y a une dizaine d'années, il y a eu le recours de plusieurs, disons d'une force internationale après les négociations, bien entendu, pour sortir de la situation. Vous savez, il y a quelque chose aussi d'assez ironique, Jean-Roger, c'est que le nom même du groupe M23 est un nom qui vient du résultat d'un processus de paix. Hein, c'était en 2009, pendant les accords de paix du 23 mars, qui permettaient l'intégration d'un certain nombre de groupes rebelles dans l'armée régulière congolaise. Malheureusement, 2-3 ans après, à partir de 2012, à partir d'avril 2012, il y a eu une forme de mutinerie au sein de l'armée et ces groupes rebelles qui étaient intégrés ont considéré qu'ils n'étaient pas suffisamment intégrés, n'avaient pas suffisamment d'avantages, étaient maltraités au sein de l'armée régulière congolaise et ont décidé de se retirer. Et c'est ça qui est à la base du M23. Donc, ce qui est assez ironique, c'est que le nom même du groupe M23 est un nom qui fait référence à des accords de paix.
René Lé, canaliste politique, résident dans la région de Washington, ici. Dans quelques instants, nous vous retrouvons pour la suite de cette session d'information consacrée à la prise de Goma dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous entrons dans le chapitre des réactions. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a pressé mardi le Rwanda de procéder à un cessez-le-feu immédiat en République démocratique du Congo, tout en exprimant son inquiétude face à l'entrée des rebelles soutenus par Kigali dans la ville clé de Goma. Les précisions de John Lydon.
Lors d'un appel avec le président rwandais Paul Kagame, Rubio a souligné que les États-Unis sont profondément préoccupés par l'escalade du conflit en cours dans l'est de la RDC, en particulier la chute de Goma aux mains du groupe armé M23 soutenu par le Rwanda, indique un communiqué du département d'État. Le diplomate américain a exhorté à un cessez-le-feu immédiat dans la région et à ce que toutes les parties respectent l'intégrité territoriale souveraine, précise le communiqué. Ce mercredi, Paul Kagame a déclaré qu'il avait eu avec Rubio une conversation productive concernant la nécessité d'assurer un cessez-le-feu dans l'est de la RDC. J'ai hâte de travailler avec l'administration Trump pour créer la prospérité et la sécurité que les populations de notre région méritent, a ajouté le président rwandais sur la plateforme X. Depuis des années, les États-Unis mettent en garde le Rwanda contre le soutien qu'il apporte au M23. Sous l'administration précédente de Joe Biden, Washington avait négocié un accord fragile pour désescalader les tensions.
Les réactions se multiplient également sur le continent africain et face à l'intensification donc des combats dans l'est de la RDC. Et on fait le point tout de suite avec Jenny Niwa.
Le président de la République démocratique du Congo, RDC, ne participera pas à la réunion avec son homologue rwandais Paul Kagame, prévue dans la journée lors d'un sommet extraordinaire de la Communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC, au Kenya, pour tenter de dénouer la crise dans l'Est de la RDC. Une responsable de la MONUSCO alerte sur la détérioration de la situation sécuritaire pour les civils et met en garde contre les risques d'attaques sur des bases ethniques alors que d'intenses combats ont laissé les rues jonchées de cadavres à Goma. L'Union africaine, qui s'est réunie d'urgence après une intensification des combats, a exhorté mardi les combattants du M23 à déposer les armes. Le président angolais, João Lourenço, qui dirigeait les derniers efforts de médiation entre les deux pays, déplore l'occupation de la ville de Goma et appelle au retrait immédiat du M23 et des forces de défense rwandaises du territoire congolais dans un communiqué diffusé mercredi.
De nombreuses voix à l'étranger continuent de déplorer les violences qui touchent l'est de la République démocratique du Congo et d'appeler à la fin à des affrontements. Tour d'horizon des réactions internationales avec Jacques Aristide.
Alors qu'une nouvelle tentative diplomatique a échoué ce mercredi avec le refus du chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, de prendre part à une réunion virtuelle avec son homologue rwandais, Paul Kagame, la pression internationale s'accroît pour mettre fin à la crise dans la région orientale de la RD Congo. L'Allemagne a mis sur pause des pourparlers avec le Rwanda sur son aide au développement exigeant du pays africain et de ses alliés du M23 qu'ils retirent leurs forces de l'Est congolais. Pékin, par la voix de son ambassadeur Foukang à l'ONU, espère que Kigali entendra les appels à ne plus soutenir le M23.
La Chine exige que le M23 cesse toute hostilité et batte en retraite de Goma et des autres zones occupées. La Chine espère que le Rwanda entendra l'appel du pays africain et du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Il faut cesser de soutenir le M23 d'un point de vue militaire.
Le chef de la diplomatie britannique, David Lammy, indique avoir parlé à Paul Kagame et appelé à la désescalade, soulignant la nécessité pour le Rwanda et la RDC de retourner d'urgence à la table des négociations.
La vérité est que si nous étions témoins des horreurs d'El Fasher et de Goma sur n'importe quel autre continent ou d'ailleurs de la violence extrémiste au Sahel et en Somalie, n'importe où ailleurs dans le monde occidental y accorderait beaucoup plus d'attention. En fin de compte, cependant, nous avons besoin d'une solution politique. Nous savons que les rebelles du M23 n'auraient pas pu prendre Goma sans le soutien matériel des forces de défense rwandaises.
Selon l'Élysée, le président français Emmanuel Macron multiplie les contacts pour permettre une désescalade. À Bruxelles, son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a fermement condamné l'offensive militaire du M23 et des soldats rwandais sur le sol congolais.
Alors que Goma s'apprête à tomber, la France exprime sa solidarité à l'égard de la République démocratique du Congo, de son intégrité territoriale. La France condamne fermement l'offensive menée par le M23 soutenu par les forces armées rwandaises qui ont entraîné la mort de 6 casques bleus et provoqué le déplacement de plusieurs dizaines de milliers de personnes civiles. Les combats doivent cesser et le dialogue doit reprendre. C'est en ce sens que la France s'est exprimée hier au Conseil de sécurité des Nations Unies.
L'ONU, les États-Unis, la Chine, l'Union européenne et l'Angola réclament que le Rwanda retire immédiatement ses forces de la RDC. Le pape François demande également de tout faire pour mettre un terme au combat.
Exprimo la mia preoccupazione.
J'exprime mon inquiétude quant à l'aggravation de la situation en matière de sécurité en République démocratique du Congo. J'exhorte toutes les parties au conflit à s'engager en faveur de la cessation des hostilités et pour la sauvegarde des populations civiles de Goma et des autres régions concernées par les opérations militaires. Je suis également avec appréhension ce qui se passe dans la capitale, Kinshasa, en espérant que toutes les formes de violence contre les personnes et leurs biens cesseront dès que possible. Je prie pour le rétablissement rapide de la paix et de la sécurité.
Après les manifestations ayant pris pour cible plusieurs ambassades à Kinshasa, les États-Unis ont appelé leurs ressortissants à quitter la RDC. La Belgique a déconseillé aux siens d'y voyager et la compagnie aérienne Brussels Airlines a annulé sa desserte de la capitale congolaise ce mercredi.
Merci Jacques Aristide. Je rappelle que vous suivez une édition spéciale consacrée à la crise de Goma dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous retrouvons notre consultant de ce jour pour parler de la réaction de la communauté internationale. René Lake, vous êtes là avec nous ?
Oui, je suis en ligne.
Ok. Oui. Comment évaluez-vous la réaction donc de la communauté internationale face à la crise de Goma ?
Écoutez, Jean-Roger, je crois que l'élément nouveau, relativement nouveau, devrais-je dire, c'est que maintenant, de manière explicite, pratiquement tous les grands acteurs de la communauté internationale mentionnent, nomment directement le Rwanda. Jusque-là, certains d'entre eux jouaient un peu sur les mots. Il était assez clair qu'ils faisaient référence au Rwanda, mais sans véritablement le nommer. Maintenant, je pense que ce tabou-là est tombé et que des États-Unis, en passant par l'Union européenne, l'Allemagne, la France, la Chine, pratiquement tous les grands acteurs à l'échelle internationale indexe directement le Rwanda et dénonce son implication dans le conflit. L'ONU, les rapports de l'ONU depuis longtemps le faisaient, plusieurs ONG le mentionnaient. L'ONU parle entre 3000 et 4000 militaires rwandais impliqués directement en soutien au M23 sur le territoire.